On a eu tout un match du jeudi soir hier entre les Lions de Détroit et les Packers de Green Bay. On va être honnête avec vous, tout ce qui manquait, c'est que ça soit à Green Bay. Maudit que c'est drabe une ambiance dans un stade couvert. Bien mieux dehors avec... En tout cas, ça, c'est mon opinion. Arnaud, salut!
Salut, Martin. Puis en plus, il y en a tellement de moins en moins de stades où tu peux jouer dehors au football. C'est assez... C'est ça. On est rendu là.
Ouais, dehors, sur du vrai gazon. On s'est rendu à cette heure avec les blessures sur le turf. J'ai tout le temps peur, pratiquement, quand il y a un plaqué avec deux, trois gars autour. Là, que... En tout cas, bref, c'est une autre histoire. Les Lions, hier, l'ont emporté. Et visiblement, avec les restants défensifs des autres équipes qui étaient ces taxi squads qu'on a embauchés, qui font ce qu'ils peuvent, puis qui en font même mieux qu'on pense, les Lions vont y aller avec leur attaque d'ici la fin de l'année, même en série.
Ouais, exact. C'est, tu sais, je pense que c'est Dan, je l'appelle Dan Gamble Campbell maintenant. Je pense que c'est, il faut absolument trouver le mot gamble là-dedans. Mais Dan l'a dit en début de match. Il a dit, écoute, c'est notre attaque qui va nous porter jusqu'au bout. Tu sais, je pense que ça a toujours été le cas depuis le début de l'année, mais ça aura jamais aussi pris son sens, en tout cas dans les dernières semaines, où les Lions de Détroit ont en ce moment 13 joueurs en défensive sur la liste des blessés. C'est le plus haut total, le deuxième plus haut total de la NFL, c'est 7. Donc, Détroit a notamment 6 joueurs de ligne défensive. Hier, Penn McNeil en plein match, encore une fois, pour une commotion cérébrale, ou en tout cas, risque de commotion cérébrale, tombe comme des mouches. C'est un peu ça, là. C'est ça, qu'est-ce que je te dis? Ça reste que c'est un sport qui est un sport de contact, mais c'est un peu ça que les équipes ont essaient de trouver des façons depuis les dernières années de limiter les blessures, surtout dans la partie du travail qui est pas nécessairement sur le terrain, donc d'avoir des pratiques plus faciles, d'avoir des camps d'entraînement plus faciles, de réduire les pratiques pendant la saison morte. On règle pas le problème, par contre. C'est ça qui est... On n'arrive pas à trouver une méthode ou une façon de faire pour limiter les blessures. Ça reste un sport qu'il est, mais les Lions sont grandement affectés par ça. Et comme tu vois, ben hier, ben c'est ça. Ils vont se rendre jusqu'au bout avec leur offensive. Puis hier, ça a été le cas. Écoute, je veux dire, si ils vont devoir gagner de cette façon-là jusqu'à la fin de l'année.
Moi, je pense que c'est très bon en saison régulière, pas de problème. En série, je doute que ça peut fonctionner pendant trois matchs.
Ouais, il faut que tu... C'est ça, exactement. Il faut que tu sois capable de... Tu sais, je veux dire, c'est comme un bon releveur. Tu sais, un bon releveur au baseball, si tu as une balle rapide à 104 000 à l'heure, elle va fonctionner pendant quelques matchs, puis elle va fonctionner pendant un certain temps. Mais les gars vont s'adapter à un moment donné, puis ils vont pouvoir la frapper, ta balle. Tu as besoin d'avoir plusieurs types de lancers pour que tu sois capable de lancer à différentes vitesses. Puis c'est la même chose au football. Il faut que ton équipe soit capable de jouer à différentes vitesses. Tantôt, tu donnais l'exemple de la température. C'est bien beau pouvoir, par exemple, Miami, les Dolphins de Miami, c'est un bon exemple, mais les Lions, c'est un autre bon exemple. Être sur un terrain à l'intérieur, sur un turf, les gars, ils courent vite, tout le monde va bien, tout est beau. Mais si tu sors de chez vous, est-ce que tu es capable de jouer dans la neige comme les Bills? Est-ce que tu es capable de ralentir le rythme du jeu parce que tu joues, par exemple, contre une équipe comme les Ravens ou autres, qui, eux autres, c'est une grosse attaque, puis tu es capable de... Est-ce que tu as envie d'aller vraiment au combat avec ce genre d'offensive-là ou tu fais comme les Chiefs le font si bien, joues contre une bonne offensive, ben tu toucheras pas au ballon du match. Donc, tu as raison à cet angle-là. Pour gagner en séries éliminatoires, faut que tu sois capable de jouer à différentes vitesses. J'ai hâte de voir comment les Lions vont négocier avec ça, mais c'est pas par manque d'effort. Hein. Quand tu regardes leur défensive hier, c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait, même contre Green Bay, avec une gang de gars qu'on n'était même pas capable de connaître leur nom 15 minutes avant la game.
Mais les Lions, leur seule chance de jouer sur un terrain extérieur avec des conditions X, Y, Z, ce serait soit les Eagles ou les Vikings.
Vikings joue à l'intérieur.
J'étudie Vikings, Packers, excusez-moi.
Ouais, exact. Mais pour l'instant, ils se distancent des Packers. En plus, avec le match d'hier, la seule chose, c'est les Eagles. Mais donc, tu sais, est-ce qu'ils seraient capables d'aller jouer aux Eagles? C'est ça, c'est les chances se réduisent. Puis après ça, t'as le Super Bowl où c'est sur un terrain neutre, soit à l'intérieur où il fait chaud. Donc ça, c'est de leur bord. Mais malgré ça, malgré que t'enlèves la température, faut quand même que tu sois capable d'ajuster ton jeu face à ton adversaire. Puis, tu sais, les Lions, ce que Dan Campbell a fait hier en fin de match, d'y aller pour, je veux dire, c'est sûr que c'est le fun, là, ça vend des billets, c'est cool, c'est excitant, mais je veux dire, c'est pas un exemple d'une équipe ou d'un coach qui est capable de changer sa vitesse dans un moment important. je pense qu'hier, Dan Campbell, Campbell a joué avec le feu. Puis, je veux dire, je comprends que c'est son, c'est sa culture, mais faire ça en séries éliminatoires puis tu perds le match, à un moment donné, il faut que tu t'adaptes au moment puis à l'environnement où tu es contre ton adversaire. Je suis pas sûr que les Lions vont être capables de le faire.
OK, le match du week-end. C'est le seul match que j'ai pas pris de décision encore. Cards, Seahawks. Ouais. Parier avec les Seahawks, c'est rare que je fais ça. Je les aime pas assez pour prendre pour eux autres. La semaine passée, je les ai pris contre les Niners. Là, je ne sais pas quoi faire. Et il n'y en aura pas trois des équipes de l'Ouest dans la nationale qui vont entrer en série. Là. Donc, c'est un match archi important.
C'est un match archi important. Quand tu regardes les statistiques avancées des deux équipes pour les chances de faire les éliminatoires, c'est l'inverse pratiquement pour les deux, dépendamment de qui gagne le match. Donc, tu as les Cards, si eux gagnent le match, ont 79 % de chances de faire les séries éliminatoires. Et s'ils le perdent, les Seahawks ont 79 % de chances de faire les éliminatoires. Et les deux, leur chiffre inverse, c'est autour de 11 et 15 %. Donc, je veux dire, c'est un match de séries éliminatoires là, en Arizona en fin de semaine. Les Cards qui n'ont pas bien joué contre les Seahawks, il y a une statistique qui est vraiment intéressante là-dedans, puis ça arrive deux fois en fin de semaine, mais c'est déjà arrivé dans la NFL en début d'année. Ça va être la deuxième fois que les Seahawks et les Cards se jouent en trois semaines. Donc, un adversaire de division, ils se sont joués à Seattle au retour de la semaine de congé des Cards. Il y a de ça déjà presque trois semaines, ça va faire trois semaines dimanche. Et ça s'était terminé 16-6. C'était assez décevant où les Cards étaient sur une bonne lancée, ont une semaine de congé. Kyler Murray s'en va manger de la pizza à New York toute la semaine. Il joue à Call of Duty. Puis finalement, il joue mal pendant la semaine contre les Seahawks. Donc ça s'est passé. Après ça, de l'autre côté, ben t'as une statistique intéressante où j'avais vu comme pour des équipes qui se jouent deux fois en trois semaines, l'équipe qui a perdu le premier match est nettement avantagée dans l'histoire de la NFL pour gagner le deuxième. Donc, les Cards seraient comme motivés, ou en tout cas, d'une certaine façon, je ne vais pas dire favoris, mais très motivés pour gagner ce deuxième match-là à la maison. Mais c'est deux bonnes défensives qui jouent très bien depuis à peu près un mois et demi dans la NFL. Les deux sont dans le top 5 de la NFL. Donc, Mike McDonald, les Seahawks commencent à avoir son identité. Et les Cards, c'est même chose pour Jonathan Gannon, le préféré de Big Ben.
Donc, tu prends les Cards basés sur ta statistique que l'équipe qui a perdu le premier de deux affrontements en dedans de trois semaines, normalement, sont avantagés. C'est en Arizona et tu y vas avec les Cards.
J'y vais avec les Cards, oui, parce que je pense que j'aime mieux Kyler Murray que Geno Smith. Et je pense que les Cards, étant donné qu'ils ont perdu ce premier match-là à Seattle, vont vouloir se venger trois semaines après, se réajuster. Et je prends les Cards pour remporter ce match-là.
Quand tu dis les Chiefs doivent m'en montrer davantage, qu'est-ce que tu veux dire, davantage?
Ben, je trouve qu'ils ont des lacunes assez flagrantes que j'avais pas remarquées dans les dernières années, comme par exemple sur leur ligne à l'attaque. Leurs deux bloqueurs leur nuisent beaucoup présentement. Et quand tu regardes, c'est difficile de combler ça en plein milieu de l'année. T'as pas de bloqueur à gauche en ce moment du côté des Chiefs. On y a essayé avec une recrue. On a eu des blessures. On est rendu à plusieurs joueurs qu'on essaye, ça ne fonctionne pas. Jawan Taylor, de l'autre côté à droite, prend le plus de pénalités à sa position de la NFL, il nuit à cette attaque-là de la façon qu'il est pas capable de jouer à un haut niveau. Et les deux blocs, littéralement Pat Mahomes, je veux dire, c'est les deux pierres angulaires. Si ces deux gars-là sont pas capables de bloquer en séries éliminatoires, t'es mort. Je veux dire, chaque équipe en séries éliminatoires a au moins un gars qui est capable de mettre la pression ou deux sur le carrière, sur le coin de la ligne. J'ai qu'à penser aux Steelers de Pittsburgh, ils en ont trois, ils en ont quatre. Tu sais, je veux dire, tout le monde en a. Les Ravens en ont, tout le monde en a. Donc, ça, c'est une affaire du côté offensif du ballon. Du côté défensif du ballon, quand tu divises la saison en deux des Chiefs, la semaine 1 à la semaine 7 et la semaine 7 jusqu'à maintenant, ou la semaine 6, je pense, et la semaine 7 maintenant jusqu'à maintenant, il y a une statistique avancée qui détermine un peu ta production par rapport à ton adversaire. Ça s'appelle le DVOA, Defense Valued Over Average. Le premier six semaines des Chiefs, ils avaient une défensive qui produisait à moins 14 % les attentes de l'adversaire. Donc, ils étaient top 5 de la NFL. Depuis la semaine 6, donc de 7 jusqu'à maintenant, ils sont à plus 35 %. Donc, ils donnent 35 % plus de verges ou de chances à l'adversaire. C'est une différence de 50 %. Donc, on parle de leur défensive qu'ils ont amenée en séries éliminatoires l'année passée. On était confiants avec cette défensive-là l'année passée, en début d'année. On avait une bonne ligne à l'attaque. Là, leur ligne à l'attaque est poreuse. Ils ont des blessures. Les joueurs ne reviendront pas. Avec qui on fait affaire pour gagner un championnat? Et quelle défensive va se présenter? Tu parles, Il n'y a pas une équipe qui a vécu ce genre de changement-là depuis le début de l'année du côté défensif de ballon. Un changement de 50% de production. Cette défensive-là se fait traverser en ce moment, donner 340 verges à Aiden O'Connell et les Raiders. Pour moi, les Chiefs, en ce moment, c'est la première fois depuis 3 ans qu'ils ne me donnent pas l'impression qu'ils gagnent le Super Bowl.
Je vais rester confiant. Mais t'as pas confiance à eux, mais t'es quand même pris contre les Chargers.
Je les ai pris parce que les Chargers sont blessés aussi, puis la performance la semaine passée contre les Falcons me donne pas beaucoup espoir. Quand ils ont eu, je pense, 187 verges, j'aurais jamais dû gagner ce match-là. J.K. Dobbins est blessé, Lord McConkey est blessé aussi, donc leurs deux meilleurs joueurs à l'attaque est blessé avec Justin Herbert. Je pense que les Chiefs vont quand même pouvoir gagner ce match-là, mais ils doivent m'en monter plus. C'est pas les Chargers qui vont affronter en série, là.
OK, le dernier match, puis je peux pas croire que Ben a pris les Bears. The Bears. Contre les Niners. Je veux bien croire que ça va mal pour les Niners. Mais à domicile, alors qu'ils sont quatrièmes dans l'Ouest puis qu'ils n'ont pas le choix, surtout que les Cards et Seahawks s'affrontent, si jamais les Cards devaient l'emporter, ça nivelle un peu tout le monde. Est-ce que les Bears peuvent surprendre les Niners?
Moi, je pense que oui. Ben a raison. Écoute, j'aime beaucoup de favoris cette semaine pour remporter des matchs, mais si j'avais à mettre un petit 2 pour un négligé qui remporte un match, ça serait moi aussi les Bears. Moi, je pense que c'est la fin d'une époque pour les 49ers. Ça se peut que Caleb Williams et les Bears leur clouent le cercueil. Ça fait presque un mois et demi que les Bears sont compétitifs à tous les matchs. Caleb Williams joue du très bon football depuis que Matt Eberflus n'est plus là et c'est Thomas Brown qui a pris la relève. Moi, j'avais beaucoup de questions par rapport à ça, mais finalement, ça, pour l'instant, la chimie passe très bien entre Thomas Brown et Caleb Williams. Ils se débarrassent du ballon rapidement. Les Bears jouent du bon football. Je serais pas surpris que ça mette fin vraiment à quelque chose de symbolique du côté des 49ers. D'une époque, tu sais, je veux dire, Trent Williams ne sera pas là. Trent Williams a perdu un de ses enfants en fin de semaine. Un de ses deux jumeaux est décédé. Tu sais, je veux dire,
arc.
Il y a comme des affaires du côté des 49ers qui dépassent juste le terrain. Tu sais, puis ça aurait été Brandon Ayuk au début. Il y a Brock Purdy. Il y a Kyle Shanahan qui a des rumeurs de lui qui partent. Il y a Trent Williams qui perd un de ses enfants. À un moment donné, les affaires s'accumulent du côté des Niners. Puis je me demande si c'est pas un peu la fin d'une époque de domination totale, en tout cas physique, des Niners de la NFL depuis 6-7 ans, puis que les Bears vont pas un peu mettre fin à ça d'une certaine façon.
Mais après avoir tout dit ça, t'as quand même pris les Niners, je te félicite.
J'ai pris les Niners, mais j'ai hésité longtemps, puis je suis comme, là, depuis que Ben, il me dit qu'il a pris les Bears, je suis content d'avoir pris les Niners, parce que ça aurait pu être un choix surprise que j'aurais fait.
Attention à toi, mon chum, bon week-end de foot, puis on se reparle lundi.
Merci, vous autres aussi, salut les boys.